Je vais présenter maintenant notre conférencier de ce soir, Sylvain Kahan. Sylvain Kahan est mathématicien et linguiste. Il est chercheur au laboratoire Lattis de l'Université Paris 7 Jussieu. Il est maître de conférence à l'Université Paris 10 Nanterre. Il est docteur en mathématiques et il est depuis mai 2002 habilité à diriger des recherches en linguistique. Pour ce qui est de son parcours, de 1987 à 1990, il a été assistant à l'Université de Paris 7. En 1990, il est devenu docteur en mathématiques pures de l'Université de Paris 6. Puis de 1990 à 1992, assistant à l'Université de Paris 6. Depuis 1992, il est maître de conférence à l'Université de Paris 10 Nanterre. Et à titre d'indication, au premier semestre 1999, il a été chercheur invité à l'Université de Montréal. Sylvain Kahan est spécialiste de la modélisation mathématique des langues naturelles dont il va nous parler ce soir. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il a participé également à de nombreux colloques internationaux. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ses travaux, je vous renvoie à sa page web qui est www.linguiste.jussieu.fr/SKahan. Voilà, Sylvain Kahan, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie.
Ok, merci, bonjour. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la modélisation mathématique des langues naturelles, et donc je vais définir les deux termes principaux, la modélisation mathématique et puis l'objet de cette modélisation qui est la langue naturelle. Alors la première question donc, qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'une langue ? On a coutume de dire qu'une langue est un moyen de communication entre deux personnes, et quand je dis deux personnes, c'est entre deux cerveaux, c'est-à-dire que quand je vous parle ici, mon but, c'est de faire passer des idées qui sont dans mon cerveau, dans le vôtre. Alors voilà comment ça se passe. Il y a un locuteur, quelqu'un qui parle, et puis il y a un ou plusieurs destinataires qui l'écoutent. Celui qui parle pense à quelque chose, il a un message à communiquer, un sens, et il va l'exprimer à l'aide de sons, parce qu'il n'a pas la possibilité de faire passer directement ce sens qui est dans son cerveau, dans le cerveau du locuteur d'en face. Donc il est obligé de transformer ce sens pour en faire une chaîne phonologique pour en faire une suite de sons. Donc cette suite de sons va arriver au destinataire qui, lui, va, à partir de cette suite de sons, récupérer un sens qu'on espère être le sens de départ. Et la langue, là-dedans, eh bien, c'est la possibilité d'associer un sens à des sons, aussi bien dans le sens sens vers le son que dans le sens son vers le sens. Et donc, ce qu'on va appeler, nous, un modèle d'une langue, ça va être la correspondance entre sens et son. Alors, on a fait déjà une abstraction, puisque, pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à la direction, est-ce qu'on est allé du sens vers le son ou du son vers le sens, on va juste regarder la correspondance comme un objet mathématique. Alors, qu'est-ce que la modélisation mathématique ? La première chose, un modèle, donc je pense que vous avez tous à peu près une idée de ce qu'est un modèle, c'est quelque chose qui simule un objet. Donc ici, l'objet qu'on veut simuler, c'est la langue. Un modèle mathématique, eh bien, c'est un modèle abstrait, dans le sens où c'est juste un modèle qui est fait de symboles, de formules, d'opérations. Et ce modèle donc, doit être capable de reproduire le fonctionnement de la langue. Donc, un modèle mathématique, ça doit être quelque chose d'opératoire, on doit pouvoir faire des calculs, des opérations. Ça doit être reproductif, c'est-à-dire que n'importe qui doit être capable de pouvoir faire fonctionner le modèle, si le modèle est suffisamment bien défini, et ça doit être falsifiable, c'est-à-dire que vous devez être capable vous pouvez vérifier si le modèle fait bien les bons calculs, et donc vous pouvez voir s'il décrit complètement l'objet que vous souhaitez décrire. Alors des exemples de modèles mathématiques, la modélisation mathématique, elle est probablement née avec Newton, avec la mécanique. Donc là, vous aviez un modèle qui cherchait à modéliser la mécanique des solides. Et vous voyez qu'une fois que vous avez le modèle de Newton, donc c'est juste un ensemble de formules, eh bien vous êtes capable de faire des calculs, par exemple d'envoyer une fusée sur la Lune, de calculer sa trajectoire. Eh bien là, c'est un petit peu la même chose. On veut donc modéliser un objet qui est dans notre cerveau. Alors en fait, on ne va pas vraiment associer des sens à des sons, parce que d'abord, on ne sait pas très bien ce que c'est que des sens. Donc la première chose, c'est qu'on va d'abord essayer de modéliser le sens, et donc on va essayer de voir comment on peut représenter le sens. Et donc c'est entre ces représentations du sens et des signaux sonores qu'on va décrire la correspondance. Alors, là, dans ma présentation, je vais plutôt m'intéresser à la modélisation de la langue écrite. Donc, je vais m'intéresser à la correspondance entre des représentations du sens et des textes écrits, c'est-à-dire des suites de lettres. Donc, mon plan va être le suivant. On va commencer par s'intéresser à la modélisation du sens. Et puis ensuite, on regardera un niveau intermédiaire entre le sens et le texte, qu'on appelle le niveau syntaxique. Et puis, après, on essaiera de recoller tout ça pour présenter un modèle complet de la langue. Alors, allons-y pour la modélisation du sens. La modélisation du sens, c'est quelque chose qui, finalement, est assez ancien. On peut faire remonter la modélisation du sens aux travaux des logiciens de l'époque grecque antique, hein, des logiciens comme Aristote. Alors, j'ai pris exprès un exemple fameux en logique, donc c'est le syllogisme suivant. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Alors, on a l'habitude depuis au moins le début du XXe siècle d'associer à un tel raisonnement un ensemble de formules qui est censé donner la structure du raisonnement et montrer pourquoi ce raisonnement est valide. Donc, par exemple, à tous les hommes sont mortels, on associe une formule qu'on peut lire comme ça. Pour tout x, x est une variable. Pour tout x, si x est un être humain, alors x est mortel. Hein, ou pour le lire de façon plus formelle, quel que soit x, h de x implique m de x. Donc h de x et m de x, on appelle ça des prédicats. Hein, h de x, ça désigne x est un homme, m de x, ça désigne x est mortel. Alors pourquoi cette formule représente-t-elle le sens de tous les hommes sont mortels ? En quel sens, en fait, elle représente ce sens? Eh bien, si vous prenez la formule « quel que soit x, h de x implique m de x », vous pouvez, à partir de cette formule, déduire de nouvelles informations par une première opération qui consiste à particulariser le quantificateur pour tout qui est devant la variable x. Par exemple, vous pouvez, puisque cette formule est valable pour tout x, elle est valable pour un x particulier. Ici, elle est valable, par exemple, pour Socrate. Donc, de pour tout x, h de x implique m de x, je peux déduire que h de s implique m de s, c'est-à-dire que si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel. Et maintenant, je peux de la même façon faire une déduction avec mon deuxième symbole. Si on me dit en plus que Socrate est un homme, de Socrate est un homme et de si Socrate est un homme, alors Socrate est mortel, je peux déduire que Socrate est mortel. OK ? Donc, j'ai utilisé ici deux opérations, deux règles de déduction. La première, c'est la particularisation. La deuxième s'appelle le modus ponens. Et donc, la formule rend compte avec les règles qui sont associées aux deux objets, aux deux symboles logiques qui étaient dans ma formule. Elle rend compte, alors elle ne rend compte pas de l'ensemble du sens de la formule, elle rend compte au moins du sens d'un des mots qui est dans la phrase, du mot tous, tout. Vous voyez que, en fait, quasiment toute la structure de la formule correspond au sens de tout. Hein, si tout A est B, vous pouvez le formaliser par quel que soit X, A de X implique B de X. Alors, on peut même présenter ça avec une autre écriture qu'on appelle le lambda calcul, où on met vraiment en évidence que tout, c'est un espèce d'opérateur qui va opérer sur deux prédicats. Ici, c'est être un homme, être mortel. Donc ici c'est représenté par lambda A, lambda B, c'est ces deux opérations, c'est pour ça que ça s'appelle le lambda calcul. Et donc voilà, c'est comme ça que en appliquant cet opérateur aux deux prédicats H de X et M de X, on va récupérer le sens de la formule. Alors en plus du sens de tout, une formule logique donne aussi les relations entre les différents éléments de sens. Alors je vais prendre un autre exemple qui sera un petit peu plus parlant. Si vous prenez une phrase assez simple, comme « Félix veut parler à Zoé », eh bien, dans cette phrase, vous avez donc deux individus qu'on va désigner ici par des symboles petit a, Félix, petit b, Zoé, et vous avez une première prédication, un premier prédicat qui est « vouloir ». Hein. Félix veut quelque chose, Félix a une certaine volonté. Alors cette volonté, c'est que Félix veut parler, il veut parler à quelqu'un. Et donc, on a besoin d'introduire une variable pour cet acte de parler. Donc, on dit qu'ici, il y a un événement qui est à l'intérieur de cette phrase, qui est l'événement parler. Donc, on introduit un deuxième prédicat dans lequel on a ajouté, de façon un petit peu artificielle, cette variable qui correspond à l'événement parlé. Donc c'est pour ça que parler a trois arguments, donc petit e qui est l'événement, et puis A et B qui sont Félix et Zoé. Et alors si on a fait ça pour parler, eh bien on doit faire la même chose pour vouloir, et donc la formule complète c'est il existe 1, il existe 2, donc il existe deux événements E1 et E2, tels que le premier événement E1, c'est que Félix veut le deuxième événement, et le deuxième événement, c'est que Félix parle à Zoé. Alors on peut représenter cette formule d'une autre façon, par un graphe, dans lequel on a donc nos quatre éléments de sens qui sont dans la phrase « Félix veut parler à Zoé ». Donc nos quatre éléments de sens, c'est Félix, Zoé, vouloir et parler, et qui sont donc liés par des relations entre les prédicats et leurs arguments, donc vouloir à deux arguments qui sont Félix et parler à deux arguments qui sont Félix et Zoé. Voilà, donc quand on formalise un texte ou une phrase par une formule logique, on est donc capable de rendre compte des relations entre les différents éléments de sens. En fait, on isole différents éléments de sens, déjà c'est quelque chose. Ensuite, on exprime leurs relations. Et puis, on est capable d'exprimer le sens de certains éléments. Alors en fait, la logique met l'emphase sur les éléments qui jouent un rôle dans la déduction. Donc c'est des éléments comme « tous », c'est des éléments comme « si alors », comme « et », comme « ou ». Mais qu'en est-il des autres mots qui sont dans cette phrase? En fait, on n'a pas vraiment étudié le sens de ces autres mots quand on n'a pas décrit le sens des autres mots qui sont dans la phrase quand on a associé à cette phrase une formule logique. Alors, on va maintenant regarder ce qu'on peut faire avec le sens de ces autres mots. Je vais prendre comme exemple un mot qui est à la fois assez simple et en même temps très riche au niveau du sens, le mot sec, donc l'adjectif sec. Alors cet adjectif, si vous regardez dans un dictionnaire, vous allez trouver plus de 30 subdivisions dans l'entrée de ce dictionnaire. Un dictionnaire, en fait, c'est quelque chose justement qui cherche à décrire le sens des mots. Alors vous avez des sens comme « la route était sèche », donc ici « sec » veut dire « sans eau ». Vous avez des exemples comme « un vieil homme sec et ridé », donc ici « sec » veut dire « maigre ». Vous avez des sens comme « sec » veut dire « improductif », dans « rester sec à un examen », etc. Alors, donc une première approche pour essayer de décrire le sens des mots, c'est l'approche de type dictionnaire. Alors l'approche de type dictionnaire actuellement, elle est très peu formalisée, c'est-à-dire qu'on est très loin d'avoir un modèle mathématique de type dictionnaire. Alors je vais vous montrer une autre approche qui donc s'intéresse directement à l'ambiguïté des mots, hein, on dit encore leur polysémie, c'est-à-dire que les mots ont plusieurs sens. Alors voilà l'idée, donc c'est un travail qui a maintenant 4 ans de Sabine Plou et Bernard Victory. Leur idée c'est d'essayer de calculer le sens des mots avec seulement un dictionnaire de synonymes. Donc un dictionnaire de synonymes c'est un dictionnaire qu'on a calculé à partir des dictionnaires qu'on trouve dans le commerce, hein, le Petit Robert, le Larousse et tout ça. Vous prenez vos dictionnaires, vous ne gardez que comme seule information quels sont les renvois d'une entrée de dictionnaire à ses synonymes. Alors par exemple, à partir de ces dictionnaires, vous trouvez 56 synonymes adjectivaux de sec, hein, dont voilà la liste, aigre, aride, austère, autoritaire, blessant, bourru, bref, brusque, brutal, cassant. Alors vous voyez, aucun de ces mots n'a le même sens que sec, mais chacun de ces mots est susceptible de remplacer sec dans un certain contexte. Alors, uniquement à partir de cette information, donc le dictionnaire de synonymes qu'on peut représenter comme un graphe, hein, donc on a, ici vous voyez, chaque arête de ce graphe représente un lien de synonymie. Donc ici je me concentre sur une partie du graphe, la partie du graphe qui est centrée autour de sec. Et quand on regarde ce graphe, on voit certaines concentrations dans le graphe qu'on appelle des cliques. Donc ici je vous en mets une en lumière, c'est la clique sec, aride, décharné, maigre. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une clique? Ça veut dire que vous voyez que dans cette portion de graphe, tous les éléments sont synonymes deux à deux. Et ces portions du graphe, en fait, mettent en évidence des sens assez précis de sec. Donc par exemple, si vous prenez aride, desséché, décharné, maigre, sec, vous voyez, tout ça vous fait penser à quelque chose à un sens particulier de sexe, un sens physique, celui d'être maigre, justement. Si vous prenez autoritaire, brusque, cassant, sec, tranchant, vous êtes plutôt dans le psychologique, hein, c'est une certaine état psychologique d'une personne. Si vous prenez des choses comme fauché, pauvre, sec, vous voyez que vous êtes dans un autre sens de sec. Alors comme ça, on trouve 75 clics contenant le mot sec, et maintenant on va, à partir de ces clics, essayer de représenter le sens global du mot sec. Alors, on va faire ça dans ce qu'on appelle l'espace des clics. On va en fait construire un espace à partir des synonymes. On a 56 synonymes et on va construire un espace à 56 dimensions dans lequel on va placer nos clics en fonction des synonymes qui appartiennent à ces clics. On va mettre sur cet espace une métrique particulière. On va mettre sur cet espace une métrique particulière qui mesure bien l'information mutuelle entre les clics. Je ne rentre pas dans les détails mathématiques. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la tête que ça va avoir. Donc on a un nuage de points. On a un nuage de points en 56 dimensions, donc c'est absolument impossible de vous le montrer comme ça. Mais donc on va le couper avec un plan. Okay, et on va donc obtenir cette forme-là, donc une espèce de cœur ou de triangle, dans lequel on a nos 75 clics qui sont représentés. Alors c'est assez joli parce qu'on voit non seulement les différents sens de sec qui apparaissent, mais on voit surtout la façon dont ils se placent les uns par rapport aux autres. Alors à peu près au milieu, vous avez le sens premier de sec, qui est celui desséché, sec, séché, donc celui par exemple du foin sec. Dans un des coins, vous avez les sens psychologiques, comme donc la clique égoïste, indifférent, insensible, sec. Dans un autre coin, vous avez des états physiques comme émacié, éthique, sec, squelettique. Et puis, dans un autre coin encore, vous avez des sens qui sont assez différents, qui sont de l'ordre du temporel, comme bref, concis, sec. Alors ça, vous voyez, on l'a obtenu simplement avec une seule ressource qui était un dictionnaire de synonymes. Alors maintenant, en utilisant une deuxième ressource, un corpus de texte. Alors ce qu'on appelle un corpus de texte, c'est un ensemble de textes. Ici, c'est un gros ensemble de textes qu'on prend, ça correspond à plusieurs milliers de livres. Et à partir de ce corpus de texte, on va essayer de désambiguiser le mot sec lorsqu'il se trouve avec un nom. Donc ici, vous avez deux exemples. Vous avez une courbe pour foin sec et une autre, enfin c'est pas une courbe en fait, c'est une surface, et une autre surface pour homme sec. Alors que représente cette surface? Elle représente le degré d'affinité du mot, ici donc par exemple pour le premier du mot foin, avec chaque clic. Alors comment est-ce qu'on calcule ce degré d'affinité? Eh bien on le calcule à partir de notre corpus de texte en regardant le nombre d'occurrences qu'on a de foin sec, mais pas seulement de foin sec, de foin séché, de foin desséché, donc ça on va en avoir pas mal, donc ça correspond en fait à notre pic, donc il y a une grande affinité entre foin et cette clique, et puis par contre eh bien, on ne va pas trouver de foin squelettique, de foin égoïste, de foin bref ou je ne sais quoi, et donc c'est pour ça qu'on va vraiment avoir ici une courbe qui va nous indiquer que foin sec, ça veut dire du foin avec le sens sec, desséché, séché. Alors si vous regardez homme, ben homme c'est un peu plus complexe parce qu'en fait on trouve deux sens possibles de sec avec homme. On trouve un sens physique donc qui va correspondre à un homme sec dans le sens un homme squelettique, décharné, et puis un sens psychologique qui va correspondre à un homme sec, un homme égoïste ou tranchant ou je sais pas quoi. Voilà, alors ça c'était donc l'étude du sens. Je vais m'arrêter là pour la modélisation du sens. On ne peut pas vraiment dire qu'on est complètement abouti à la modélisation du sens quand on a fait ces choses-là. On a de bonnes informations sur la façon dont se répartissent les différents sens d'un mot, mais on est encore très loin d'avoir une représentation de notre état mental quand je vous prononce foin sec ou homme sec. Alors maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui est entre le sens et le texte, qu'on appelle la syntaxe, et la grammaire. C'est-à-dire que, indépendamment du sens, les phrases obéissent à un certain nombre de règles. Alors ces règles, vous les connaissez, vous en connaissez un certain nombre, que vous avez appris à l'école. Vous avez des règles d'ordre, ça c'est la syntaxe à proprement parler. Donc ces règles d'ordre, c'est par exemple, vous savez que le sujet d'un verbe se met préférentiellement devant le verbe en français. Vous avez des règles d'accord, le verbe s'accorde avec son sujet. Vous avez des règles de conjugaison, et puis donc des règles qu'on appelle les règles de la grammaire. Et ce qu'on appelle l'analyse syntaxique, c'est de vérifier qu'une suite de mots est bien une phrase, c'est-à-dire de vérifier qu'une suite de mots, qu'une phrase, vérifie bien les règles de la grammaire. Alors, pour faire de l'analyse syntaxique, on va voir un premier exemple où on va faire de l'analyse syntaxique exactement comme on fait du calcul algébrique, exactement comme on fait du calcul avec des nombres. Alors, cette idée, c'est une idée qui remonte à la première fois qu'on la voit, c'est chez un mathématicien polonais qui s'appelle Hadziukiewicz en 1935. Et puis cette idée, elle était passée un petit peu inaperçue. Elle a refait surface dans les années 50 quand on s'est intéressé à la traduction automatique. Et puis elle a de nouveau un petit peu disparu. Et puis elle a refait de nouveau surface dans les années 80. Et donc les grammaires qui utilisent cette idée, on les appelle des grammaires catégorielles. Je vais vous montrer sur un exemple comment elle fonctionne. Donc mon exemple, ça sera le garçon d'or. Et donc on va associer à chaque mot de cette phrase une catégorie. Alors la catégorie qu'on associe au verbe, vous la voyez, c'est donc GN sous P. Donc P c'est phrase, GN c'est groupe nominal. Et ce que veut dire cette catégorie, elle veut dire que d'or c'est une phrase à condition que vous lui rajoutiez un groupe nominal à sa gauche. De la même façon, garçon c'est D sous GN, c'est-à-dire que c'est un groupe nominal à condition que vous lui rajoutiez un déterminant. Et le, c'est un déterminant. Alors donc on associe à chacun des mots de notre phrase sa catégorie, et maintenant on va, à l'aide de ces catégories, vérifier que c'est bien une phrase. Alors comment on va le faire? Eh bien, on va faire des opérations sur ces catégories exactement comme on fait des opérations sur les fractions. C'est-à-dire que de B et de A sur B ou de B sous A, on a comme résultat que ceci est égal à A. Alors maintenant, si je prends mon exemple, eh bien, je vais donc maintenant combiner mes différentes catégories. Je vais combiner D et D sous GN. Donc de D et de D sous GN, je fais la simplification et j'obtiens GN. Donc le garçon est un groupe nominal. Et maintenant, comme d'or, justement, cherche un groupe nominal, maintenant, si je combine cette nouvelle catégorie GN avec GN sous P, j'obtiens P et donc je viens de vérifier que le garçon d'or est bien une phrase. Alors vous voyez que cette grammaire, elle va me reconnaître le garçon d'or comme une phrase, mais si vous lui donnez une autre suite de mots comme d'or le garçon ou garçon d'or le, eh bien elle ne va pas les reconnaître parce que ces mots ne sont pas dans le bon ordre et vous ne pourrez pas faire la réduction. Alors on a des catégories pour des mots un peu plus compliqués, je vous donne deux autres exemples. Donc si vous prenez un verbe comme mange, quelqu'un mange quelque chose, donc là mange a deux compléments maintenant, et donc vous aurez une catégorie qui sera plus compliquée avec un GN à gauche, un GN à droite, et vous avez donc une barre qui veut dire sous et une barre qui veut dire sur, donc vous avez mange, c'est GN sous P, le tout sur GN. Alors donne, lui, a trois compléments, quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un, et donc vous aurez une catégorie un peu plus complexe avec donc trois compléments sous P. Alors maintenant je vais vous donner une autre présentation de ces grammaires catégorielles qui ne va plus renvoyer au calcul algébrique mais qui va renvoyer à la logique. Alors l'idée c'est de simplement, ici j'ai juste remplacé mes barres à gauche, mes barres à droite par des flèches qui pointent vers la gauche et qui pointent vers la droite. Et maintenant, donc par exemple, si vous prenez donc comme exemple, j'ai Pierre mange un gâteau, si vous prenez la catégorie que j'ai associée à gâteau, donc c'est D implique GN. Alors il faut la lire comme si vous me donnez un déterminant à ma gauche, je serai un groupe nominal. Okay? Et maintenant, on va combiner nos catégories et en utilisant non plus une règle de réduction de type calcul algébrique, mais en utilisant la règle du modus ponens, en disant que D et D implique GN, ça donne GN. Okay, on a fait une déduction. Donc on peut mener la déduction jusqu'au bout et ça marche bien. Pierre mange un gâteau, et bien une phrase, et vous allez réussir à déduire le symbole P qui vous dit que c'est bien une phrase. Alors cette idée de voir l'analyse syntaxique comme une preuve logique, c'est une idée qui remonte à Lambeck à 1958. Et ce qui est assez amusant, c'est cet aller-retour entre la linguistique et la logique, entre la linguistique et les mathématiques. Donc vous avez vu, la logique, c'est vraiment quelque chose qui est né des recherches en sciences humaines, hein, de l'idée de la modélisation du raisonnement, de la modélisation du sens. Et ici, on a réutilisé la logique, mais pas pour faire de la sémantique, pour faire de la syntaxe, et on a obtenu une nouvelle logique, parce que ce n'est pas tout à fait la logique classique, parce que ici, mes flèches pointées vers la droite et mes flèches pointées vers la gauche, elles ne veulent pas dire la même chose. C'est-à-dire que D et D implique GN, ça va bien donner GN, mais si vous mettez un gâteau dans l'autre ordre, si vous avez gâteau 1, de D implique GN et de D, je ne veux pas obtenir GN. Okay, donc c'est ce qu'on appelle une logique non commutative. Et la logique non commutative, elle est vraiment née de ces recherches en syntaxe du calcul de Lambeck dans les années 50. Et elle a donné toute une nouvelle branche de la logique, qu'on appelle la logique non commutative, la logique linéaire, avec des travaux qui ont redonné un nouvel éclairage sur les fondements des mathématiques. Alors, maintenant, je vais continuer à vous décrire la syntaxe des phrases à partir de ce calcul que je viens de faire. Donc, soit mon calcul algébrique, soit ma preuve logique. Donc, j'ai toujours mon même exemple, Pierre mange un gâteau. Je peux construire des structures qui donnent la façon dont j'ai fait ce calcul. Alors, en linguistique, on trouve deux types de structures. Une structure qu'on appelle la structure syntagmatique, dont Chomsky a fait un grand usage dans ses travaux, et puis une autre structure qu'on appelle la structure de dépendance et qui a été beaucoup étudiée par un linguiste français qui s'appelle Lucien Tenière. Alors la structure syntagmatique, l'idée c'est de montrer comment les mots s'assemblent quand je veux vérifier que c'est une phrase. Donc, vous voyez que quand j'ai fait mon calcul, j'ai commencé par assembler un et gâteau pour vérifier que c'était un groupe nominal. Ensuite, j'ai assemblé mange et un gâteau. Et c'est exactement cette information que je retrouve dans mon arbre syntagmatique où j'ai d'abord mis un et gâteau ensemble et puis ensuite mange et un gâteau forment un nouveau syntagme, un nouveau constituant qu'on appelle un groupe verbal. Et le tout, en l'assemblant à Pierre, donne une phrase. Alors, dans la structure de dépendance, c'est une autre idée. L'idée, c'est de voir quel mot a opéré sur quel autre mot. Quand j'ai construit Pierre mange un gâteau, c'est gâteau qui demandait à avoir un déterminant. Et donc, un est venu remplir une demande de gâteau. Et c'est ce que représente le petit morceau d'arbre de dépendance ici, où je vois que un dépend de gâteau, ça veut dire que un est venu remplir une requête de gâteau qui était d'avoir un déterminant. De la même façon, mange, lui, demandait deux choses, d'avoir un groupe nominal à sa gauche, un groupe nominal à sa droite, un sujet et un objet direct. Et l'élément qui a rempli la requête de manche dans un gâteau, c'est gâteau qui a introduit la catégorie groupe nominal qui a été mangé par mange. Et donc, c'est ce qu'on trouve dans mon arbre de dépendance. Donc, on trouve exactement ces relations. Quel mot est venu remplir quelle requête de quel mot ? Alors, maintenant, je vais vous présenter la grammaire sous un autre angle qu'on appelle la grammaire générative. Alors, ça, c'est une idée de Chomsky, de ses premiers travaux de 1957. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté la grammaire comme quelque chose qui permettait de vérifier qu'une phrase était correcte. Maintenant, on peut voir la grammaire comme quelque chose qui permet de générer l'ensemble des phrases de la langue. Donc, ça, c'est une idée assez jolie. Donc la grammaire, c'est quelque chose qui permet de générer toutes les phrases d'une langue et de générer en même temps leur structure syntaxique et puis même après leur représentation sémantique. Alors je vous donne un exemple de grammaire générative qui n'est pas l'exemple original de Chomsky. Voilà un exemple de grammaire où vous prenez ici des morceaux de structure. Donc je prends le morceau de structure qui correspond à mange, le petit bout d'arbre syntagmatique qui correspond à mange. Donc mange, c'est lui qui construit la phrase et qui demande deux groupes nominaux, un à sa gauche, un à sa droite. Et donc Pierre va venir remplir une de ses requêtes et puis gâteau va venir remplir une autre requête et lui-même va demander un déterminant et ça va être rempli par le déterminant 1 et j'obtiens la phrase Pierre mange un gâteau. Voilà, donc là, j'ai vraiment une grammaire générative. J'ai généré, vous voyez, je suis parti, j'avais des petits bouts de structure et je les ai combinés et je vous ai généré une phrase, Pierre mange un gâteau, et en même temps, je vous ai construit sa représentation syntaxique. Alors, une autre façon de voir ce que je viens de faire. Vous voyez que j'ai utilisé 4 règles et que je les ai combinées. Donc ces 4 règles, elles correspondent aux 4 mots de ma phrase, à Pierre mange un gâteau. Et je les ai combinées donc chaque mot avec sa règle est venu remplir des requêtes de d'autres règles. Et je retombe sur mon arbre de dépendance de tout à l'heure où j'ai mange qui a 2 compléments, Pierre et gâteau qui a un complément qui est 1. Alors, oui, cette grammaire, on appelle ça des grammaires d'arbres, donc c'est une poursuite des travaux de Chomsky dans les années 70, donc par des mathématiciens indo-américains, Joshi et Vijay Shankar. Maintenant, on va essayer de recoller tout ça. Donc je vous ai d'un côté parlé de la modélisation du sens, de l'autre côté je vous ai montré comment on pouvait construire les représentations syntaxiques des phrases. Et maintenant, je voudrais vraiment faire le passage d'un texte à son sens. Alors, probablement le premier qui a proposé une vraie grammaire qui permettait de faire ça, c'est un logicien anglais, Richard Montagu, qui dans les années 70 a proposé une grammaire catégorielle dans laquelle il a ajouté des morceaux de représentation sémantique. Donc voilà comment ça se présente. Je reprends toujours mon exemple « un garçon d'or ». Et donc, à chacun des 3 mots de la phrase, j'associe d'abord, donc j'ai d'or, ensuite j'associe une catégorie syntaxique qui est donc c'est un groupe nominal, groupe nominal sous P, et puis un morceau de structure sémantique. Donc, j'utilise ici la notation du lambda calcul, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul sémantique. L'idée, c'est que c'est pareil, de la même façon que j'ai associé un petit morceau de représentation syntaxique, j'associe un petit morceau de représentation sémantique. Et maintenant, on va combiner ces catégories complexes. Donc on a nos 3 catégories, celle qui correspond à 1, celle qui correspond à garçon, celle qui correspond à d'or. Et quand on les combine, on fait 3 opérations en même temps. C'est-à-dire on combine les mots, on fait une combinaison au niveau linéaire. De 1 et de garçon, je construis le segment un garçon. On fait une combinaison au niveau syntaxique. On vérifie qu'en combinant D et D sous GN, on vérifie que ça... Un garçon, c'est bien un groupe nominal. Et puis, en combinant les éléments de sens, on construit une représentation sémantique pour un garçon. Alors maintenant, de la même façon que j'ai combiné un et garçon, je peux combiner un garçon et d'or, et j'obtiens donc un segment qui est un garçon d'or, qui est reconnu comme une phrase, et en même temps, je lui ai associé une représentation sémantique qui est ici, donc la formule, il existe un X tel que X est un garçon et X d'or. Alors ça, c'est très beau, c'est très séduisant, mais ça pose quelques problèmes. Je vais vous montrer 2 problèmes que pose cette approche. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas forcément correspondance entre les mots et les unités sémantiques. Là, ici, j'avais pris mes 3 mots, et à chaque mot, j'avais associé un élément de sens. Alors prenez un exemple comme « la moutarde me montonnait ». Donc « la moutarde me montonnait », dans le sens « je commence à être en colère ». Alors, dans cette phrase, vous avez 6 mots, mais vous n'avez pas 6 éléments de sens. Alors, comme élément de sens, vous en avez un qui est très clair, c'est « me », c'est « moi ». Et puis, vous avez un autre élément de sens qu'on appelle une locution, qui est « la moutarde montonnée ». Donc ça, ça forme un seul élément de sens. Alors, pourquoi ça forme un seul élément de sens ? Parce que c'est, en un sens, c'est indécomposable. C'est-à-dire, si je vous dis quel est le sens de « moutarde », si je vous dis quel est le sens de « nez », quel est le sens de « monter », vous ne pouvez pas deviner quel est le sens de la moutarde montée au nez. Okay ? Donc, dans ce sens, on dit qu'une telle suite de mots est une locution, qu'elle est non compositionnelle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'obtenir en composant des éléments de sens plus petits. Et puis vous avez un troisième élément de sens, je ne sais pas si vous le voyez, ce troisième élément de sens, c'est celui qui est porté par la flexion du verbe, qui est le fait que le verbe « monter », il est au présent, et que ça s'oppose, par exemple, à « la moutarde me montait au nez » ou « la moutarde me montera au nez ». Et vous avez ces 3 éléments de sens donc, dans cette phrase, qui, vous voyez, ne correspondent absolument pas aux mots, puisque vous avez des portions de mots qui correspondent à des éléments de sens, et vous avez des groupes de mots qui correspondent à des éléments de sens. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des distorsions entre les 3 niveaux structurels que j'ai considérés. Donc les 3 niveaux structurels que j'ai considérés, c'est d'une part l'ordre linéaire, hein, j'ai combiné des mots dans un certain ordre pour former des segments, c'est d'autre part la structure syntaxique, et puis la troisième chose, c'est la structure sémantique. J'ai combiné des éléments de sens. Alors, ces distorsions entre les niveaux structurels, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et donc, maintenant, je vais vous présenter un travail que j'ai fait sur la relativisation, c'est-à-dire sur la construction des propositions relatives. Et vous allez voir que dans la relativisation, il y a beaucoup de distorsions, à la fois entre l'ordre linéaire et la structure syntaxique, et entre la structure syntaxique et la structure sémantique. Alors, je vais prendre comme exemple un exemple qui ressemble à mon exemple de tout à l'heure. Félix veut parler à cette personne, et donc je vais vous donner la structure syntaxique et la structure sémantique de cette phrase. La structure syntaxique, donc, je vous la donne sous forme d'arbre de dépendance. Dans Félix veut parler à cette personne, veut est le verbe principal de la phrase, donc c'est lui qui va être en haut de l'arbre, et c'est lui qui va décider, c'est veut qui décide que dans cette phrase, il y a une infinitive, il y a un complément à l'infinitif qui est ici, parler à cette personne. Donc, veut a deux dépendances, son sujet, Félix, et puis une infinitive, une proposition à l'infinitif qui est donc parler à cette personne. Alors, dans parler à cette personne, c'est de nouveau parler qui est l'élément principal, puisque c'est lui qui décide qu'il y aura un complément qui est à cette personne. Et donc, ça me donne, tout ça me donne mon arbre de dépendance. À côté, je vous ai présenté la structure sémantique sous la forme d'un graphe. Et donc vous avez donc les quatre éléments de sens qui sont dans cette phrase: Félix, personne, vouloir et parler. J'ai laissé tomber le déterminant 7, mais et donc vous avez les relations entre ces éléments de sens. Alors déjà vous voyez qu'il n'y a pas de correspondance directe entre l'arbre et le graphe sémantique. Dans le graphe vous avez un cycle, puisque Félix est à la fois un argument de vouloir et un argument de parler. Mais en fait, ces distorsions restent assez locales. Alors maintenant, vous allez voir que quand je passe à une relative, j'ai quelque chose de plus gênant que ces distorsions qu'on observe ici. Alors pour passer à une relative, ça veut dire que je vais changer l'éclairage sur mon sens. Maintenant, je voudrais parler de la personne. Donc Félix veut parler à cette personne, je veux parler de la personne. La personne, donc c'est la personne à laquelle Félix veut parler. La représentation sémantique, elle reste à peu près la même, c'est-à-dire que les éléments de sens sont toujours les mêmes dans la personne à laquelle Félix veut parler. Les relations entre ces éléments de sens sont toujours les mêmes, simplement l'éclairage a changé. Maintenant, l'élément important, c'est personne. La structure syntaxique, elle va beaucoup changer. Elle va beaucoup changer parce que comme personne est justement devenu l'élément important, il va devenir la tête de l'arbre. C'est-à-dire que maintenant j'ai un groupe nominal, la personne à laquelle Félix veut parler, et c'est le nom personne qui est la tête de ce groupe nominal. Et donc c'est lui qui va devenir la tête de l'arbre, et la proposition relative proprement dite va dépendre de ce nom, et donc c'est le verbe principal, veut, vouloir, qui va dépendre de personne. Et puis je vais avoir une pronominalisation dans la relative, c'est-à-dire que cette personne va être pronominalisée par un pronom relatif, le pronom laquelle. Et donc j'obtiens cet arbre dans lequel il y a une relation qui pose problème, qui est la relation entre personne et veut, entre personne et vouloir. Parce que cette relation, elle ne correspond pas à une relation sémantique entre vouloir et personne. Dans mon graphe sémantique, il n'y a aucune relation. Donc là, j'ai une véritable distorsion entre la sémantique et la syntaxe. Alors maintenant, on va voir qu'il y a aussi des distorsions entre la représentation syntaxique, c'est-à-dire mon arbre de dépendance, et la représentation linéaire entre l'ordre des mots. Alors, l'arbre de dépendance mis en relation directe avec la représentation, avec l'ordre des mots, donc la personne à laquelle Félix veut parler. Donc maintenant, les dépendances de mon arbre sont devenues des arcs entre des nœuds qui sont bien alignés. Et puis, vous avez une dépendance qui pose problème, qui est celle entre parler et son complément à laquelle. Alors, pourquoi elle pose problème, cette dépendance? Parce que voyez que normalement, dans des phrases simples, quand on ordonne les mots dans une phrase simple, les compléments d'un mot ont tendance à se mettre à côté des mots. Okay ? Et donc, on a une telle structure, on appelle ça une structure projective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre les dépendances. Ça donne une belle représentation avec des arcs qui s'emboîtent les uns dans les autres. Ici, j'ai une coupure, c'est-à-dire que le complément de parler à laquelle est venu se placer à l'avant de la relative. Alors, on comprend pourquoi il s'est placé à l'avant de la relative. Parce que laquelle, c'est un pronom relatif, c'est-à-dire que non seulement c'est un pronom, mais en plus, c'est lui qui marque le fait que j'ai une proposition relative, c'est lui qui m'avertit, attention, la proposition qui va suivre le nom, l'antécédent, personne, c'est une proposition relative, c'est quelque chose qui va modifier le sens de personne. Alors, toujours est-il que j'ai cette distorsion et qu'elle pose des problèmes de description, c'est-à-dire qu'en particulier, c'est non calculable simplement par une grammaire du type de celle que je vous ai présentée avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle une grammaire algébrique, ces grammaires qui ressemblaient à du calcul algébrique. Et pour cette raison, des linguistes comme Chomsky, par exemple, ont proposé des nouvelles opérations et ont proposé des grammaires qu'on appelle des grammaires transformationnelles, dans lesquelles on avait des opérations de transformation qui permettaient de déplacer des éléments, de modifier l'ordre, et on avait donc le complément de parler qui venait comme ça, avec une opération particulière qui pouvait être déplacée à l'avant de la relative. Alors, ce type de grammaire transformationnelle s'est avéré assez peu satisfaisant. D'une part, d'un point de vue cognitif, cette idée comme ça qu'on construirait la phrase dans un ordre et puis qu'après, pour je ne sais quelle raison, les éléments se déplaceraient, comme ça que la chose se passerait en deux temps, c'est une idée qui, à mon avis, ne convient pas. Et puis le deuxième problème, c'est un problème mathématique, c'est que ces grammaires transformationnelles posaient des problèmes calculatoires assez complexes. Et donc je vais vous proposer une autre modélisation mathématique de ces distorsions. Avant de vous présenter ce modèle mathématique, je vais vous parler d'un troisième problème que posent les relatifs, c'est qu'on ne peut pas relativiser n'importe quelle position syntaxique. C'est-à-dire, si vous prenez une structure syntaxique, par exemple un arbre de dépendance d'une proposition, bien vous avez vu dans ma proposition, j'avais mon groupe 7 personnes et je l'ai relativisé. Alors maintenant, si vous prenez une autre proposition, par exemple la proposition « je regarde la télé en parlant à cette personne », si vous essayez de relativiser cette personne, de construire une proposition relative, ça va vous donner la chose suivante, la personne à laquelle je regarde la télé en parlant. Et donc ça donne une phrase qui est incompréhensible, qui est agrammaticale. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Eh bien, on peut relativiser en fait les compléments d'un verbe. C'est-à-dire que si vous prenez une proposition très simple dans laquelle vous avez juste un verbe et un complément, donc par exemple Félix parle à une personne, vous pouvez construire la personne à laquelle Félix parle. Ça, vous avez toujours le droit de le faire. Et ce qu'on observe, c'est que si on remplace ce verbe simple par une chaîne de verbes plus complexe, eh bien, on a toujours le droit de le faire. Donc, par exemple, vous pouvez remplacer parle par veut parler, vous obtenez la personne à laquelle Félix veut parler, la personne à laquelle Félix a l'intention de parler, la personne à laquelle Félix pense que Luce a l'intention de parler. Donc, vous voyez, ici, j'ai des chaînes de verbes assez complexes dans lesquelles j'ai aussi des éléments, des prépositions, des conjonctions de subordination qui interviennent, mais ça reste une chaîne de verbes ou une chaîne, en tout cas, d'éléments qui ont une valeur verbale. Avoir l'intention, ce n'est pas tout à fait un verbe, mais c'est quelque chose qui se comporte comme un verbe dans la langue. Et puis, si je regarde le complément lui-même, mon complément dans lequel j'ai mon pronom relatif, à laquelle, eh bien, je prends un autre exemple, la voiture avec laquelle j'ai eu un accident, je vais pouvoir allonger ce groupe, allonger la distance entre le pronom relatif et les verbes qui le gouvernent. Donc je peux construire des choses comme l'ami de Jean avec la voiture de qui j'ai eu un accident, ou la personne avec la voiture de l'ami de qui j'ai eu un accident. Alors ça commence à être compliqué, ça devient à la limite de ce qu'on est capable de comprendre, mais il y a quand même cette idée que potentiellement on est capable d'allonger cette chaîne de noms. Alors donc on a introduit deux nouveaux types d'unités syntaxiques que j'appelle nucleus verbal et nucleus nominal. Donc nucleus nominal, c'est comme cette idée de chaîne de verbes, et nucleus verbal, pardon, et nucleus nominal, c'est comme une idée de chaîne de noms. Et donc, dans une relative, on a ces deux types d'unités qui interviennent. Alors, je reviens à mon exemple, la personne à laquelle Félix veut parler. Et maintenant, je vais mettre en évidence ces deux unités. Donc, je vous les montre. Voilà le nucléus verbal veut parler. Voilà le nucléus nominal à laquelle. Et Maintenant, je vais les intégrer dans ma structure. Alors, ça me donne cette chose-là, qu'on appelle un arbre à bulles, dans laquelle mes nucléus sont devenus des éléments de la structure, des bulles. Je reviens en arrière pour que vous voyez bien ce que j'ai fait. Donc, j'avais mes deux liens qui se coupaient, le lien entre personne et vœu et le lien entre parler et son complément à laquelle. Et maintenant que j'ai attribué ces liens aux bulles, j'obtiens une nouvelle structure dans laquelle je n'ai plus de coupure entre liens. Donc ça, déjà, ça va résoudre mon problème de calcul de l'ordre des mots. Je n'aurai plus besoin de faire appel à des transformations. Et maintenant, on va voir une deuxième chose, c'est que ça permet aussi de résoudre les deux autres problèmes qu'on avait, le problème de la distorsion sémantique syntaxe et le problème de savoir calculer exactement qu'est-ce qui était de ne produire des phrases qu'avec des positions qui pouvaient être relativisées. Alors, je vais aller assez vite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est toujours la même idée que celle des structures, des grammaires catégorielles. Je vais combiner des morceaux de structure, un petit peu comme si j'assemblais des Legos. Hein. Donc à chaque mot de ma phrase, j'associe un petit bout de structure, et puis j'assemble tous ces trucs-là, et ça doit me donner la structure de ma phrase complète. Alors là, je m'intéresse à la correspondance entre le sens et la syntaxe, et donc je souhaite construire en même temps une représentation sémantique et une représentation syntaxique de ma phrase, la personne à laquelle Félix veut parler. Alors voilà la structure qui correspond au pronom « laquelle ». Alors cette structure, elle est assez complexe, puisque c'est elle qui contrôle la structure de la relative. Alors, laquelle en fait introduit le nucléus verbal et le nucléus nominal. Il va se connecter à un antécédent, hein, il va introduire le fait que la relative va venir modifier un antécédent, et le fait que la relative va avoir un verbe, est une proposition. Alors maintenant, si vous prenez l'antécédent, personne, donc il va venir se combiner avec la structure du pronom, il va venir occuper la position qui est tout en haut de la structure du pronom. Maintenant, si vous prenez la structure de vouloir, donc vouloir, c'est un verbe qui a un sujet et un complément qui est un verbe à l'infinitif, et cette structure, elle va venir se combiner avec la structure du pronom, et il est dit dans la structure de vouloir que comme vouloir a comme complément un autre verbe, eh bien ces deux verbes sont susceptibles de former un nucléus verbal. Et donc, ce complément est susceptible de venir à l'intérieur de la bulle que j'ai dessinée en rouge. Alors, je combine d'abord cette structure avec Félix, et puis je combine tout ça maintenant avec la structure de mon pronom relatif, laquelle. Et donc, j'obtiens cette structure dans laquelle Félix, lui, est resté à l'extérieur du nucléus verbal, mais par contre, le verbe qui dépendait de vouloir, lui, est venu dans le nucléus verbal. Et maintenant, si je prends la structure de parler à, eh bien, je vais pouvoir la combiner avec vouloir, et donc la tête ici, parler, va venir se combiner avec la position qui a été introduite par vouloir, et j'obtiens cette structure qui est en fait la structure complète de la personne à laquelle Félix veut parler. Alors, je ne vous ai pas du tout parlé des relations sémantiques, mais en même temps que j'ai construit cet arbre à bulles, j'ai aussi construit la représentation sémantique, j'ai aussi construit mon graphe sémantique. Alors, je vais reprendre cet exemple pour vous montrer quelle est la place de la modélisation mathématique. Donc ici, dans ce travail sur les relatives, on est parti des données linguistiques, donc où on a observé les contraintes sur la relativisation. On a fait d'abord une conceptualisation en introduisant donc les concepts de nucléus verbal et de nucléus nominal. Ensuite, ça nous permet de revenir vers les données, de voir est-ce qu'on n'a pas oublié des données, est-ce que nos concepts rendent bien compte des données. Et puis ensuite, on va formaliser, donc on introduit un objet mathématique qui représente nos concepts, donc c'était l'arbre et la grammaire à bulles. Et enfin, si on le veut, ce modèle mathématique, on peut l'implémenter, c'est-à-dire on peut en faire un modèle informatique qui va nous permettre de valider notre modèle mathématique et qui va nous permettre aussi d'introduire ce modèle mathématique dans des applications de traitement automatique des langues. Et donc la modélisation mathématique, c'est l'étape de formalisation qui se situe donc entre la linguistique théorique, qui est l'étape de conceptualisation, et le traitement automatique des langues, donc, qui est le petit nom de la linguistique informatique, qui est donc l'étape de passage à un modèle informatique. Alors, je vais conclure cette conférence en vous donnant quelques perspectives sur la modélisation mathématique des langues. Là, je me suis concentré sur un petit fragment de modèle. Ce qu'on souhaite développer, évidemment, c'est des modèles à large couverture, c'est-à-dire des modèles qui seraient capables de décrire la langue dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on doit faire des gros dictionnaires, des grosses grammaires. Donc ça, c'est une problématique qui existe depuis une dizaine d'années. Il existe déjà d'assez gros modèles, mais il n'y a encore à l'heure actuelle aucun modèle qui couvre l'ensemble d'une langue. Il y a le problème de la modélisation du sens, donc je vous ai dit, ça, on est loin d'avoir abouti à quelque chose d'entièrement satisfaisant, donc ça c'est vraiment un objectif très important, parce qu'on ne peut pas s'en passer dans toutes les applications si on veut faire du dialogue, si on veut pouvoir un jour être capable de parler à des machines comme de la même façon qu'on tape sur son... Et tout ça, il va falloir être capable de vraiment modéliser le sens si on veut faire de la traduction automatique. Il y a d'autres choses qui sont un petit peu à la limite de la linguistique. La modélisation de l'apprentissage, comment est-ce qu'on est capable d'apprendre une langue? Ici, il y a déjà des réponses, en particulier d'autres types d'approches que j'ai pas pu vous présenter. Des modèles statistiques ou des modèles à base de réseaux de neurones permettent de montrer comment on peut... comment on peut faire acquérir à un modèle mathématique des règles et pas seulement les écrire à la main. Enfin, il y a le problème de la modélisation de la performance. Alors, ce que j'appelle la modélisation de la performance, c'est que là, je vous ai montré la correspondance, comment décrire la correspondance entre sens et son, mais je ne vous ai pas vraiment montré comment passer des sens au son ou passer des sons au sens. Alors, je vais vous faire participer à une petite expérience de psycholinguistique, de psychologie. Voilà une phrase, donc vous la lisez. Le diplomate reconduit à la frontière un espion russe. Donc, cette phrase, elle a un verbe, reconduire, et puis il y a trois compléments. Et maintenant, je vous donne une autre phrase que vous allez lire aussi. Le diplomate reconduit à la frontière est un espion russe. Donc, normalement, vous devez tous avoir eu une petite gêne en lisant cette phrase, c'est-à-dire que vous avez dû bloquer sur le verbe être, sur est, et vous avez été obligé de reconsidérer l'analyse que vous aviez faite de reconduit et de vous apercevoir que reconduit, ce n'était pas le verbe principal de la phrase, mais qu'en fait, c'était un participe passé et que reconduit à la frontière, c'était un complément de diplomate. Alors, ça nous apprend des choses. Ça nous apprend que, d'abord, quand on analyse une phrase, eh bien, on fait des choix. Que la première fois, vous ne vous êtes pas rendu compte que reconduit, ça pouvait avoir deux interprétations différentes. Vous avez tout de suite fait le bon choix. Et puis, ça nous dit aussi qu'on est capable de revenir sur nos choix et de refaire une analyse. Et donc ça, notre modèle mathématique, si c'est un modèle mathématique qui modélise non seulement la langue, mais qui modélise aussi les personnes en train de parler, eh bien, elle doit être capable de modéliser ces choses-là. Enfin, je voudrais insister sur la créativité mathématique. Quand on fait de la modélisation mathématique, on ne se contente pas simplement d'aller chercher des objets mathématiques préexistants pour les coller sur nos problèmes de linguistique en l'occurrence. Il faut vraiment faire preuve de créativité mathématique, c'est-à-dire qu'il faut créer des objets en fonction de ce qu'on observe. Vous voyez que les différentes choses que je vous ai présentées, la logique, les grammaires formelles, les arbres à bulles, ce sont des objets mathématiques qui n'existaient pas avant qu'on s'intéresse à certains problèmes de linguistique. Et donc c'est vraiment des objets mathématiques qu'on a créés. Et vous voyez que ici, la linguistique va nourrir les mathématiques en proposant de nouvelles problématiques. Alors, ça me permet de passer au problème de la situation institutionnelle d'une recherche interdisciplinaire comme une recherche à l'interface des mathématiques et de la linguistique. Il se passe que les mathématiques et la linguistique sont deux sciences qui sont assez éloignées dans le paysage institutionnel. On a tendance à classer les mathématiques avec un noyau de sciences qu'on appelle les sciences dures, les sciences exactes, dans lesquelles on trouve la physique, la chimie. Alors, il y a des raisons historiques évidentes à ça. Évidemment, ça fait plus de 3 siècles qu'on fait de la modélisation mathématique en physique. Mais ça pose un problème pour la recherche parce que la linguistique, elle se trouve à un autre endroit, du côté des sciences humaines, dans d'autres universités. Les facs de sciences et les facs de sciences humaines, ce sont des universités en général qui sont séparées. Et ceci se reflète aussi dans l'enseignement, c'est-à-dire que vous avez des filières à dominante maths dans les facs de sciences dans lesquelles en général on ne fait pas du tout de sciences humaines, c'est-à-dire qu'un étudiant de maths fait de la physique, de la chimie, mais... La plupart des étudiants de maths n'entendent jamais parler de sciences humaines, n'entendent jamais parler de linguistique, de psychologie. Et puis, dans les filières de linguistique, avec le développement du traitement automatique des langues, on a maintenant des enseignements d'informatique, de logique, de statistique, mais on n'a pas de véritable formation de mathématiques, et en tout cas, on n'a pas une formation qui permettrait d'avoir une véritable créativité mathématique. Alors, ceci me permet d'adresser mes plus vifs remerciements à l'Université de Tous les Savoirs, d'une part pour m'avoir invité, et puis surtout pour avoir fait une conférence sur ce sujet qui est encore naissant et qui est encore assez peu développé du point de vue de nos institutions. Je vous remercie.
Dans le titre « Modélisation mathématique et des langues naturelles ». Qu'est-ce que vous appelez des langues naturelles ?
Donc, ce qu'on appelle les langues naturelles, c'est les différentes langues parlées dans le monde. Alors bon, il y a toujours un problème de définition des langues avec le problème des dialectes. Hein. Par exemple, si vous prenez des langues comme l'allemand, vous avez une grande variation des différents allemands parlés dans les différentes régions d'Allemagne. Donc on ne sait pas tout à fait ce que c'est qu'une langue, mais vous avez vu que je vous ai présenté la langue comme un objet qui se trouve dans le cerveau de quelqu'un. Donc vous pouvez aussi voir une langue naturelle comme votre aptitude à parler le français.
J'avais deux questions qui tournaient autour du fait qu'il y avait d'autres langues qui étaient plus riches que le français. Parce que bon, vous avez beaucoup utilisé le verbe « vouloir », qui est un verbe d'effectif. On peut se demander si finalement il ne traduit pas un mode qui est appliqué à un verbe.
Oui.
Et d'autre part, il y a des langues qui utilisent beaucoup plus de groupes nominaux, avec beaucoup plus de compléments. Et ça pourrait être aussi une voie pour enrichir vos modèles.
D'accord. Donc effectivement, il y a une grande variété dans la façon dont les langues utilisent les possibilités. Donc par exemple, il y a des langues qu'on dit agglutinantes, qui ont tendance à former des chaînes à former pratiquement avec ce que nous considérerait comme des mots séparés, qui forment vraiment des chaînes qui se comportent même du point de vue morphologique comme un véritable mot. Sinon, pour répondre à votre question sur la richesse des langues, est-ce qu'il y a des langues plus riches que le français? Je pense pas. J'ai pas envie de répondre à une question comme ça. Je pense que chaque langue a ses particularités. Toutes les langues sont capables de décrire toutes les situations. On arrive toujours à faire de la traduction, on arrive toujours à traduire quelque chose qui est dit dans une langue dans une autre langue. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des langues plus riches que d'autres. Bon, chaque langue a son vocabulaire. Bon, ça dépend de la culture, évidemment. On sait que les Esquimaux ont une vingtaine de mots pour le blanc. Nous, on n'en a qu'un, mais c'est normal, quoi. Ils vivent dans le blanc. Mais...
Oui, dans les exemples d'analyse syntaxique, on donne souvent des phrases extrêmement simples, du genre « le chat mange la souris » ou des choses comme ça. Les phrases que vous donnez en exemple sont du même ordre. Est-ce qu'on arrive vraiment à quitter ce domaine élémentaire pour analyser des phrases complexes, comme des phrases d'un romancier, je ne parle pas de Proust, mais de quelqu'un qui écrit une phrase qui tient debout et qui est assez charpentée, et pas des phrases de ce type-là, « le chat mange la souris ».
Je ne vous ai pas donné que des phrases simples. À la fin, on a étudié les propositions relatives. On a utilisé des choses comme la personne à laquelle Félix veut parler. On n'est plus tout à fait dans les phrases simples. Si vous regardez, qu'est-ce que vous avez comme phénomène vous avez les phénomènes complexes dans la langue. Vous avez des phénomènes comme la relativisation. Vous avez des phénomènes comme la coordination. Donc des choses comme... Félix veut parler à sa mère et Luce à son père. Donc là où il y a, non seulement il y a une coordination, mais il y a des éléments qui disparaissent. Donc ça, c'est... Mais ça, vous voyez qu'encore une fois, le nucléus verbal que je vous ai introduit, là, veut parler, on le voit réapparaître. Il était là dans Félix veut parler à sa mère et puis il a disparu dans Luce à son père. Donc ces concepts que j'ai introduits, ils permettent aussi de modéliser ces choses-là. Après, il y a des choses comme la négation qui sont aussi compliquées. Félix ne veut parler à personne, mais là encore, on retrouve encore les mêmes objets qui interviennent. Vous avez, il faut regarder, on étudie tous ces phénomènes un par un, Et puis, bah, si vous prenez une phrase de Proust, bah, vous pouvez la décomposer en regardant quels sont les différents phénomènes qui interviennent dedans. Et puis, on peut les modéliser un par un. Et je vous assure que, bon, on a effectivement des problèmes de modélisation, mais qu'on modélise des phrases très complexes. Là, évidemment, pour mes exemples, si je vous avais pris tout de suite des phrases très complexes, bah, vous seriez resté comme ça à dire « mais qu'est-ce qu'il fait lui ?» Là, j'ai évidemment, toujours quand on fait des présentations, on choisit des exemples simples qui mettent en évidence un seul phénomène. Donc en fait, on fait quelque chose d'un peu artificiel, c'est-à-dire qu'on isole un phénomène. Là, par exemple, je voulais vous parler de la relativisation, donc j'ai isolé la relativisation, j'ai évité de faire interférer ça avec la coordination, la négation et tout ça. Mais après, évidemment, on peut faire des modèles plus complets. Le fait-on ? Oui, on le fait. C'est justement pour ça que c'est important de faire des modèles à large couverture. C'est-à-dire vraiment d'essayer de parce qu'effectivement, en modélisant individuellement différents phénomènes, des fois on est surpris quand on prend une phrase qui combine tout ça en même temps. Et donc il faut faire les expérimentations, mais oui, on les fait. On a des modélisations. On est capable de. En fait, les problèmes, c'est pas tellement de modéliser ces différents phénomènes. C'est les plus gros problèmes qu'on a, c'est vraiment les problèmes liés au sens, liés à l'ambiguïté, liés au fait que les mots ont plusieurs sens, que des mêmes suites peuvent. Vous voyez, un mot comme car, ça peut désigner un nom, un car dans le sens un bus, ou ça peut désigner quelque chose qui est un élément grammatical qui n'a absolument rien à voir. Je suis content car tu es parti. Évidemment, alors là, on est bloqué. Ça pose d'autres problèmes beaucoup plus complexes quand on essaye vraiment de mettre nos modèles en fonctionnement.
Dans les applications, vous avez parlé du dialogue homme-machine. Et en fait, c'est un cas où si le dialogue se fait en mode texte, il va y avoir des fautes de frappe et même souvent des libertés prises avec la grammaire. Et pourtant, dans votre dernier exemple, on voyait qu'un seul mot changeait radicalement le sens de la phrase. Est-ce que vous avez des pistes ou déjà des idées pour modéliser cette erreur sur les phrases, enfin, cette possibilité, cette tolérance aux erreurs de frappe?
Je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez utilisé un traitement de texte, vous avez utilisé des ce qu'on appelle les correcteurs grammaticaux. C'est-à-dire que vous tapez votre texte et puis à chaque fois que vous faites des erreurs, on vous signale, attention, là, vous avez utilisé une suite de quelque chose qui n'est pas un mot, ou vous avez oublié de faire un accord. Donc ça, c'est des choses qu'on modélise assez bien. Maintenant, on est capable de... Donc on a des modèles mathématiques de ça et on a surtout des modèles informatiques. On a maintenant des systèmes qui sont capables de non seulement de prendre en compte des phrases qui ne sont pas tout à fait correctes, mais en plus de vous proposer des corrections. Alors ensuite, pour parler du dialogue homme-machine, le dialogue homme-machine pose d'autres problèmes que simplement la modélisation de la langue. Quand on fait du dialogue homme-machine, il faut aussi modéliser les intentions du locuteur, qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quel domaine on se situe, pourquoi vous me posez telle question et tout. Donc là, on a des vrais problèmes de modélisation du sens, de qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de dialoguer. Et ça, c'est des choses, donc là, on rentre dans un autre domaine qui est un petit peu à la limite de la linguistique.
J'ai deux questions. Est-ce que vous... C'est venu à l'esprit, j'imagine, vous l'avez évoqué, ça fait un certain moment que la linguistique a abandonné dans certaines descriptions le concept de mot. Est-ce que la modélisation mathématique s'est basée, au lieu du concept de mot, sur des concepts comme le concept de morphème ou de monème pour analyser le sens? Et deuxième question, plus compliquée, qui est liée à tout ce qu'on a dit juste avant, la question de monsieur là-bas aussi, est-ce qu'on arrive à modaliser la langue telle qu'elle se parle réellement, justement ce qu'on fait là en ce moment, vous ou moi, quand on parle, on interrompt ses phrases, on dit des mots, des particules dilocutoires comme bon, etc. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir modaliser ce genre de choses? Et à ce moment-là, une autre question du coup, pourquoi ne pas avoir commencé par modéliser des langues mortes par exemple? Puisque vous travaillez avec des corpus de textes et ces langues ne sont plus parlées, donc elles n'évoluent plus. C'est, j'imagine, un des principaux problèmes de modélisation mathématique.
Alors, je réponds à votre dernière question. D'abord, les langues mortes, on n'a pas des corpus aussi importants que pour les langues vivantes. Pour certaines expérimentations, par exemple celle que je vous ai montrée, celle des graphes sémantiques où on a essayé de reconstruire le sens de sec, on utilise des corpus absolument gigantesques. Et pour que l'expérience marche bien, pour qu'au niveau statistique on ait des bons résultats, il faut qu'on ait des corpus qui sont largement supérieurs à des corpus qu'on pourrait avoir pour le latin par exemple. Ensuite, on n'a pas du tout abandonné la notion de mot. Loin de là, la notion de mot, elle est toujours ici centrale. Simplement, il faut se rendre compte que les mots, ils jouent à un certain niveau structurel. Donc, ils ont un rôle au niveau, ce qu'on a appelé le niveau syntaxique. Quand je vous ai représenté mes arbres de dépendance ici, ou mes arbres syntagmatiques, c'est des arbres avec des mots. C'est là que je représente la structure de la phrase en termes de mots. Mais évidemment, ces mots, donc il y a une distorsion. Ces mots ne correspondent pas forcément à des unités sémantiques. Donc c'est là qu'il faut faire intervenir la morphologie. Il faut voir quelles sont les différentes unités de sens qu'on peut avoir à l'intérieur d'un mot. Vous aviez une deuxième question, j'ai oublié. C'était...
On vous redonne le micro.
Allez. Vous aviez commencé sur le mot et...
C'était sur la langue orale, enfin la langue,
ah oui, la langue orale.
Réellement
donc,
parlée.
Alors, oui, la langue orale et toutes les erreurs qu'on peut faire, les erreurs de performance et tout ça. Donc ça, je vous ai dit, c'est... Bon, c'est vrai que pendant longtemps, les linguistes ont fait un petit peu comme si on pouvait faire une abstraction, c'est-à-dire considérer la langue comme quelque chose de complètement détaché de ce que fait vraiment le locuteur, des erreurs qu'il peut faire. Et c'est vrai que la plupart des modèles mathématiques s'intéressent surtout à ça, à la langue, une espèce de langue pure où on ne ferait jamais d'erreur. Mais croyez-moi, on s'intéresse aussi à ces questions d'erreurs de performance et on a des débuts de modèles. Et par exemple, on peut voir qu'il y a des liens entre le type de répétition qu'on fait. On fait pas tout à fait. Au début, on croyait qu'on pouvait faire n'importe quoi, que quand on se trompait, on faisait n'importe quoi. Mais on se rend compte qu'on fait pas tout à fait n'importe quoi, qu'on se reprend sur certaines portions de phrases et que ça ressemble beaucoup à la coordination, ce qu'on fait. Et que d'autre part, évidemment, on arrête souvent des phrases comme ça, mais on n'arrête pas non plus n'importe où, n'importe quoi. Il faut quand même qu'on ait fait passer une partie de son message et qu'en fait, si on regarde le segment qu'on a produit, c'est pas une phrase complète, mais ce segment, il est bien formé et il est incomplet, mais il vérifie quand même les règles de la grammaire.
J'ai l'impression que dans la façon dont vous analysez les phrases, à travers ce que vous avez présenté, il s'agit d'avant tout d'un découpage au niveau signifiant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous regardez d'abord quelles relations entretiennent les mots entre eux avant de se poser la question de s'il y a un sens à tout ça. J'aimerais savoir si vous posez la question de ce que c'est que l'unité signifiante. C'est-à-dire on a l'impression que dans le découpage que vous opérez, vous vous arrêtez aux mots. Ça rejoint un peu peut-être une des questions de monsieur tout à l'heure. Je voudrais savoir si, dans la modélisation mathématique, il est possible d'envisager un découpage plus fin que l'unité du mot. Puisque des fois, on a une ambiguïté au niveau syllabique, même peut-être au niveau de la lettre elle-même.
Voilà. Alors, c'est curieux, on a l'impression que vous n'avez pas écouté la même conférence. L'intervenant précédent avait l'air de dire que j'avais abandonné les mots. Vous avez l'air de me dire que je ne considère que les mots. Je crois que je vous ai quand même beaucoup parlé des sens et je vous ai dit qu'effectivement les sens ne correspondent pas aux mots. Alors oui, on sait par exemple faire de la conjugaison, ça c'est assez facile, et on sait très bien à partir d'un verbe décomposer, récupérer à la fois le verbe et puis récupérer la partie qui correspond à la flexion du verbe et le sens qui va avec. Donc ça c'est très facile, vous prenez un verbe, monte, vous avez monte, le verbe monter, puis vous savez qu'avec cette terminaison ça correspond au présent de l'indicatif avec le sens que ça peut avoir. Oui, évidemment, on s'intéresse évidemment à toutes les unités de sens et on est obligé pour ça de... Alors ça, c'est vrai que pour l'instant, si vous prenez les dictionnaires, vous avez l'impression que dans les dictionnaires, on s'intéresse qu'aux mots. Et si vous voulez chercher des choses comme les exemples comme je vous ai montré, la moutarde montée au nez, ou prendre le taureau par les cornes, ou briser la glace, enfin vous en avez des expressions comme ça, vous avez toujours du mal à les trouver dans les dictionnaires. On a l'impression que les lexicologues, les linguistes s'y intéressent pas beaucoup. Alors là, c'est sûr qu'il y a un gros effort à faire pour les repérer. Parce que c'est plus difficile à repérer que les mots. Les mots, vous prenez des textes, vous faites passer un petit logiciel très simple et vous allez avoir tous les mots qui sont dans un texte. Mais pour repérer toutes les locutions, c'est-à-dire tous les segments de ce texte qui correspondent à des sens, c'est pas possible. Il faut avoir fait, faut les lister autrement. Il faut avoir, faut comprendre le texte. Il faut avoir faire appel à son sens. Donc là, il y a un vrai travail à faire encore.
J'aimerais revenir sur les perspectives de votre discipline, la modélisation mathématique des langues. On a parlé des applications pratiques, donc dialogue homme-machine, traduction automatique. J'aimerais savoir aussi ce que les perspectives donc de cette science sur l'éclairage qu'elle peut nous apporter sur la compréhension des langues humaines elles-mêmes et donc sur la linguistique, par exemple, enfin les rapports entre les différentes langues, la formation des langues telles qu'elles le sont aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un potentiel de ce côté-là ?
Oui, je suis content que vous me posiez cette question parce qu'on a souvent tendance à confondre la modélisation mathématique avec le développement d'applications informatiques. Alors effectivement, quand on veut développer des systèmes informatiques, on doit faire une modélisation mathématique au préalable. Mais la modélisation mathématique, ça nous apprend aussi des choses sur la façon dont fonctionne la langue, en mettant en évidence les opérations, hein, en montrant comment... Ben, quand on produit une phrase, on fait des calculs, eh bien, ça nous apprend des choses sur la façon dont on parle, sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Et puis, y a des tas de choses qu'on aimerait savoir, sur lesquelles on travaille. On aimerait savoir, par exemple, quelle est dans notre cerveau la partie Enfin, on est avec une aptitude à parler, on est avec une aptitude à apprendre les langues, et on aimerait que notre modèle mathématique en rende compte de ce que on a déjà dans notre cerveau quand on est, et de ce qu'on apprend simplement en parlant avec ses parents et les gens qui sont autour de nous. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on souhaiterait modéliser. Avant d'être capable de s'attaquer à ces problèmes, je crois qu'il faut qu'on soit déjà capable de modéliser un certain nombre de langues. Alors, il y a énormément de travail qui est fait sur l'anglais. Je crois qu'à peu près 95% du travail de modélisation qui est fait, c'est sur l'anglais. On comprend pourquoi, parce que tout le monde veut se situer par rapport à l'anglais. Et puis, il y a beaucoup de travail sur le français. Il y a beaucoup de travail sur les langues des pays riches. Et puis, il n'y a absolument pas de travail fait sur les langues africaines, sur des tas de choses comme ça. Donc, avant de pouvoir vraiment s'attaquer à ce qui est vraiment propre, vraiment à s'attaquer à la langue dans le sens notre aptitude, notre faculté de pouvoir parler, je crois qu'il faut vraiment faire d'abord un travail de description d'un certain nombre de langues. Alors les langues asiatiques, il y a des pays riches dans les pays asiatiques, donc il y a beaucoup de travaux sur le japonais, sur le coréen. Les Chinois sont assez réticents à travailler sur leur langue, donc il n'y a pas tellement de travaux. Et puis les autres, non, il y a moins de choses.
Est-ce que vous pensez que l'analyse mathématique du langage écrit, ce qui est fait par ces travaux-là, laisse passer une grande partie de l'affectif, c'est-à-dire de ce que donnent les intonations ou ce que donne l'humour dans un texte ? Est-ce que c'est traduisible de façon mathématique ?
Alors, ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à modéliser, d'abord parce qu'il faudrait être capable de modéliser les émotions. C'est-à-dire, bon, alors ça serait déjà un problème de modélisation mathématique qui ne regarde pas directement la linguistique, qui regarde la psychologie. Alors là, c'est sûr qu'en psychologie, il y a un vrai travail à faire en modélisation mathématique. Si on était capable de modéliser les émotions, après, on pourrait voir quelle est l'influence dans tel état émotif, je produis telle ou telle chose. Alors, on commence à regarder ce genre de choses, on étudie effectivement les différences de prosodie, les différences de mélodie, d'intonation entre quelqu'un qui est en colère et quelqu'un qui parle normalement. On observe un certain nombre de choses, on voit comment les accents se placent sur les mots, ça dépend des langues. Donc vous savez qu'en français, on place l'accent sur l'avant-dernière syllabe, donc quand on accentue, on va accentuer cette avant-dernière syllabe. Dans d'autres langues qui fonctionnent autrement, on va accentuer ailleurs. Et donc, Mais c'est des choses, évidemment, on commence seulement à les modéliser parce que, je vous dis, le problème, c'est la modélisation des émotions.
Sylvain Kahn, merci beaucoup.
Merci.